Alors, les projecteurs de l'actualité sont encore une fois braqués sur le Moyen-Orient. Les peuples de cette région sont à la fois victimes des groupes armés, dits djihadistes, mais aussi des manigances des puissances impérialistes et des dictatures qui les servent. Au début du mois de juin, les milices du groupe État islamique ont pris Mossoul, la seconde ville de l'Irak. Semant la terreur sur leur passage, elles s'attaquent avec férocité à toutes les minorités et à tous ceux qui refusent d'obéir à leurs lois. La médiatisation de la décapitation de deux journalistes américains et celle d'Hervé Gourdel en Algérie, revendiquée par l'État islamique, a amené les gouvernements américains et français à déclencher une nouvelle guerre et des bombardements en Irak et en Syrie. L'assassinat de ce touriste français, comme ceux des journalistes américains, horriblement mis en scène sur Internet, sont des actes barbares. Les émirs, comme se font appeler les petits seigneurs de guerre de l'État islamique, qui massacrent les minorités chrétiennes de Syrie, les Kurdes au nord de l'Irak ou les Yézidis, sont des barbares. Mais les bombardements actuels, suivis ou pas d'une nouvelle intervention terrestre, même s'ils font provisoirement reculer l'État islamique, même s'ils se terminaient par l'assassinat de son chef, ne supprimeront pas la barbarie. Au contraire, ils ajouteront immanquablement un peu plus de chaos et de barbarie dans toute la région. Pendant que l'Irak sombre dans le chaos et la guerre entre milices religieuses ou ethniques, le peuple syrien est toujours pris entre le marteau de la dictature d'Assad et l'enclume des milices djihadistes, et cela depuis plus de 3 ans. La barbarie règne en Irak, en Syrie, mais aussi à Gaza, où pendant 50 jours, les bombardements israéliens ont provoqué des dégâts sans équivalent depuis 1967, avec plus de 2000 morts, dont 500 enfants. Il faudrait ajouter la situation au Yémen, victime depuis des années d'affrontements, d'attentats et traversée par une guerre civile entre milices rivales. La région est à feu et à sang, et ses foyers de tension sont en train d'étendre le chaos aux pays voisins, comme le Liban et sans doute la Jordanie. Ces foyers de tension sont le produit direct de la domination impérialiste, qui, depuis un siècle au moins, impose par la violence et la force des armes sa mainmise sur la région. Depuis le 8 août en Irak et le 22 septembre en Syrie, les dirigeants impérialistes ont engagé une nouvelle guerre. Obama est parvenu à rassembler près d'une cinquantaine d'États dans une coalition militaire contre l'avancée des bandes armées du prétendu État islamique. Nul ne sait où mènera cette intervention. Mais ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est à une déstabilisation de tout le Moyen-Orient qui se traduit par l'éclatement de la région sur des bases confessionnelles et ethniques. Par leur irruption violente au Moyen-Orient, ce sont les grandes puissances impérialistes qui portent la responsabilité de la barbarie dans laquelle s'enfoncent les sociétés qu'elles ont dominées.
C'est au Moyen-Orient que sont nées l'agriculture et les premières civilisations humaines. Dans la région qu'on appelle le croissant fertile et qui aujourd'hui subit guerre et désolation. Dans les vallées de l'Euphrate et du Tigre, dans l'actuel Irak, sont apparus il y a plus de 5000 ans l'écriture et les premiers états. Plus tard, au Moyen-Âge, Damas, Bagdad, Le Caire ont été les centres d'une civilisation qui a rayonné de l'Espagne à l'Inde. Après le morcellement et le déclin de l'Empire arabe, l'Empire ottoman, au XVIe siècle, réunifia cet ensemble. Tout comme les empires auxquels il succédait, l'Empire ottoman, gouverné par le sultan depuis la capitale Istanbul, était multiconfessionnel et multiethnique. L'islam dominait et toutes ses sectes y étaient présentes, sunnites, chiites, avec toutes leurs variantes. Des peuples et des communautés de toutes religions, en tout cas des religions monothéistes, s'y côtoyaient, musulmans, juifs, chrétiens de toutes tendances. Les non-musulmans étaient toutefois assujettis à une taxe spéciale. L'arabe, la langue du Coran, était un facteur d'unité, mais on y parlait aussi turc, kurde ou berbère. Il y eut des épisodes d'affrontements religieux, des persécutions à plusieurs époques, mais plutôt rares. Et en définitive, au sein de l'Empire ottoman, toutes ces communautés ont pu vivre ensemble durant des siècles. Chacun pouvait circuler librement de Tunis à Damas ou Bagdad sans traverser de frontières. La Première Guerre mondiale, en 1914, les rivalités impérialistes débouchèrent sur la Première Guerre mondiale. Le contrôle du Moyen-Orient en était un de ses enjeux, et cela passait par le dépeçage de l'Empire ottoman. Pour tenter de se dégager de l'emprise britannique et française, ce dernier se rangea du côté de l'Allemagne. Pour l'affaiblir, la Grande-Bretagne n'hésita pas à attiser les sentiments nationaux et anti-turcs des populations arabes. Dans les années 1920, après que France et Angleterre aient pris possession du Moyen-Orient, il leur restait à faire accepter leur domination à sa population, à qui les traités de partage de la région apparaissaient comme une trahison des engagements pris. Pour faire accepter cette nouvelle phase de leur ordre, les puissances impérialistes employèrent tous les moyens. Diviser pour régner, telle était la devise qu'elles allaient appliquer à la lettre. Elles allaient non seulement tracer des frontières géographiques, mais également, à l'intérieur de celles-ci, opposer les ethnies les unes aux autres et attirer les divisions confessionnelles. Elles posaient de cette façon des bombes à retardement qui n'allaient cesser d'exploser tout au long du XXe siècle et qui continuent d'exploser aujourd'hui, de la Palestine au Liban, à la Syrie et à l'Irak. La domination impérialiste se heurta dans presque tous ces pays à des révoltes importantes. Dans les années 20 et 30, où le sentiment national des populations s'exprimait contre l'arrogance et le mépris des forces d'occupation. Alors, non content d'opposer les communautés les unes aux autres et de mener contre les populations des guerres sanglantes, l'impérialisme appuya, voire encouragea, dès cette époque, les forces les plus réactionnaires. En Égypte, les Britanniques observaient avec sympathie un mouvement religieux naissant, les Frères musulmans, dont l'objectif était d'imposer la charia comme fondement de l'organisation politique et sociale. De même, en appuyant la création de la monarchie saoudienne, l'impérialisme favorisa un des courants les plus réactionnaires de l'islam, le wahhabisme. Cela alla de pair avec l'intérêt croissant présenté par la région pour les puissances impérialistes. Pour elles, le Moyen-Orient avait depuis longtemps un intérêt stratégique, en tant que point de passage obligé vers l'Orient, en ce qui concerne la Grande-Bretagne, vers son empire des Indes. Mais la découverte d'importantes richesses pétrolières allait encore décupler cet intérêt en aiguisant l'appétit des capitaux occidentaux pour l'exploitation de cette source d'énergie et les profits prévisibles. Au moment où éclata la Seconde Guerre mondiale, les puissances déclinantes qu'étaient devenues la Grande-Bretagne et la France s'accrochèrent à leur présence au Moyen-Orient, face à la puissance rivale des États-Unis. En Irak, en Égypte, en Syrie, il existait déjà un prolétariat, nombreux et combatif. En son sein, des partis communistes bénéficiaires du prestige de la révolution russe, puis celui de l'URSS et de ses victoires militaires. Des révoltes populaires éclatèrent dès avant la guerre et ces partis virent affluer les militants. En fait, Staline, arrivé à la tête de l'URSS, avait tourné le dos aux idées communistes. Son souci était de favoriser les États acceptant de s'allier à l'Union soviétique et non d'abattre l'impérialisme, non d'aider le prolétariat des pays de la région à prendre le pouvoir. Staline pria les différents partis communistes arabes de s'aligner et de soutenir les forces nationalistes bourgeoises. Ainsi, les partis que les militants communistes avaient construits avec courage et sincérité allait servir de marchepied à des officiers de l'armée égyptienne, irakienne ou syrienne, se présentant comme les défenseurs des peuples arabes. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'impérialisme américain chercha à imposer sa loi au Moyen-Orient. Et plus encore, avec le début de la guerre froide, quand il se retrouva à la tête du bloc de l'Ouest contre le bloc soviétique. D'une part, il voulait empêcher que de nouveaux États ne rejoignent le bloc soviétique. D'autre part, il voulait intervenir à la fois contre les États à la fois contre les États, contre les... Pardon, excusez-moi, j'ai perdu ma ligne. Pour cela, donc, il n'hésita pas à intervenir à la fois contre les États de la région pas assez dociles à son goût et contre ses rivaux, le Royaume-Uni et la France. Ce fut le cas, par exemple, en 1948, où le gouvernement américain apporta son soutien à la création d'Israël contre la Grande-Bretagne, qui voulait maintenir sa présence en Palestine. Par la suite, Israël allait devenir le bras armé des États-Unis dans la région. Malgré cela, dans les années 50 et 60, des régimes nationalistes s'affirmèrent en Égypte, en Irak et en Syrie. Une fraction des officiers de l'armée aspirait à ce que leur pays se développe et se modernise. Ils s'imposèrent comme leaders du courant nationaliste. Certains prétendaient incarner les aspirations de tous les peuples arabes en reprenant à leur compte les idées du panarabisme, qui visait à unir les peuples arabes dans une seule nation. C'est Nasser qui incarna le mieux la force de ce courant politique durant cette période. Lorsqu'en 1956, il décréta la nationalisation du canal de Suez, édifié sur le sang et la sueur du peuple égyptien, un immense espoir souleva les peuples des pays arabes. Le nasserisme eut un écho dans toute la région. D'autres régimes, s'inspirant de Nasser, se mirent en place en Irak et en Syrie. Cependant, tous restèrent sur le terrain du nationalisme. Ils voulaient un développement national, mais dans le respect de l'ordre social bourgeois, où les travailleurs ne devaient ni contester, ni se mêler de politique. Au regard des autres États arabes, comme la monarchie jordanienne ou les monarchies du Golfe, ces États apparaissaient comme progressistes. Ils défendaient une forme de laïcité, le droit à l'instruction pour la population. En Syrie et en Égypte, le sort de centaines de milliers de paysans s'améliora avec la réforme agraire. Les principaux secteurs de l'économie furent nationalisés, les banques, les industries, le commerce de gros. Le secteur public devint le principal employeur. La population put bénéficier d'infrastructures et de services dans le domaine de la santé et de l'éducation. En Irak, par leur mobilisation, les travailleurs obtinrent des droits, un code du travail qui réglementa la durée de travail hebdomadaire à 42 heures, par exemple. Dans ces régimes autoritaires, les populations virent malgré tout leur situation s'améliorer. Et pour une femme arabe, il valait mieux vivre en Irak qu'en Arabie Saoudite. Ces régimes purent exister en partie grâce au soutien de l'Union soviétique, qui leur apporta une aide matérielle, militaire et technique non négligeable. L'impérialisme américain dut composer avec ces régimes, non seulement parce qu'ils étaient soutenus par l'URSS, mais aussi parce qu'ils disposaient d'une certaine assise populaire et qu'ils pouvaient faire preuve d'une relative indépendance. Néanmoins, il exerça sur eux une pression permanente afin de les affaiblir, et dans ce jeu-là, Israël se révéla être un atout majeur. En 1967, Nasser procéda au blocus du port d'Eilat, débouché israélien sur la mer Rouge. Ce fut le prétexte à l'attaque israélienne qui détruisit l'essentiel des forces militaires égyptiennes et conquit le territoire de Gaza et la péninsule du Sinaï. En 6 jours, les chars israéliens conquirent aussi sur la Syrie le territoire du Golan. Sur le plan politique, la guerre des 6 jours représenta un tournant pour Israël. Jusqu'en 1967, une entente entre les États arabes et Israël n'était pas encore exclue. Les Juifs installés dans ce nouvel État, rescapés des camps de la mort et de la barbarie nazie, espéraient trouver en Israël un havre de paix. Ils auraient pu coopérer avec les peuples arabes. Mais avec la guerre des 6 jours, Israël créa une situation où un retour en arrière fut de plus en plus difficile. Isolé au milieu de tailles de peuples arabes dont il s'était fait des ennemis, Israël ne dut sa survie qu'à la protection des puissances impérialistes pour lesquelles il devint un allié indéfectible. En 1973, une autre guerre opposa Israël aux États arabes. Encore une fois, Israël l'emporta, bien que plus difficilement. Ces guerres successives eurent pour effet de discréditer les régimes nationalistes auprès des populations arabes démoralisées. L'espoir d'une république panarabe s'évanouissait. La tentative d'une république arabe unie entre l'Égypte et la Syrie était un échec. Les dirigeants arabes agitaient le slogan de l'unité arabe par démagogie, pour s'appuyer sur l'aspiration des peuples arabes à l'unité. Mais ils étaient incapables d'établir des rapports démocratiques entre eux et encore moins avec leur population. Les guerres israélo-arabes déstabilisèrent définitivement le fragile équilibre de la région. Après 1967, chassés des territoires occupés par Israël, des centaines de milliers de Palestiniens trouvèrent refuge dans les pays arabes voisins, où ils s'entassèrent dans des camps de fortune. Ils devinrent un ferment de révolte sociale et représentèrent alors, dans les années 70, un potentiel révolutionnaire. La révolte palestinienne aurait pu entraîner tous les pauvres de cette partie du monde dans une lutte non seulement contre l'État d'Israël, mais contre l'ensemble des classes dirigeantes et des dictatures de la région. Mais les dirigeants des organisations palestiniennes n'entendaient pas mener une telle politique. Cela n'allait pas empêcher les dictateurs de la région de se sentir menacés par ces pauvres révoltés, politisés et armés, vivant au contact de leurs propres pauvres. En 1970, le roi Hussein de Jordanie, lors du Septembre noir, envoya ses chars contre les camps de réfugiés, faisant des milliers de morts parmi les Palestiniens dont il se prétendait solidaire. Puis, en 1975, une guerre civile fut déclenchée au Liban, visant en particulier les Palestiniens. Elle allait durer 14 ans et consacrer l'éclatement du pays suivant les clivages confessionnels qui avaient été institutionnalisés par le colonialisme français. Dans les années 70, parmi les populations arabes, l'espoir et les illusions des années 60 laissèrent la place à la déception. Les Arabes pauvres avaient fait cette amère expérience. Des États qu'ils croyaient amis, qui s'étaient prétendus anti-israéliens, anti-impérialistes et pro-palestiniens, les avaient réprimés aussi férocement que l'avait fait Israël. Ce n'est que par démagogie que les États arabes avaient agité la cause palestinienne pour s'acheter une popularité à bon compte, de même qu'ils avaient pu utiliser le panarabisme. La classe ouvrière de ces pays, à diverses reprises, avait su se montrer combative malgré des régimes de dictature féroces. Mais elle n'avait pas été en mesure de proposer une autre alternative qui aurait permis d'unifier les pauvres de la région et de combattre à la fois leurs propres exploiteurs et l'impérialisme. Une des raisons en est que le mouvement ouvrier avait partout subi une répression féroce. Mais la responsabilité en incombait aussi aux organisations elles-mêmes, à commencer par les partis communistes, qui partout s'étaient ralliés au régime nationaliste au lieu de proposer aux travailleurs une politique révolutionnaire qui les aurait amenés à se mesurer avec les régimes nationalistes alliés ou non de l'impérialisme. Cette politique était bien sûr le résultat de l'héritage empoisonné du stalinisme. Les militants communistes étaient massacrés ou croupissaient dans les prisons d'Égypte, d'Irak, de Syrie, alors même que leurs dirigeants avaient soutenu et continuaient parfois à soutenir les régimes nationalistes qui les réprimaient. À la fin des années 70, une page se tournait. La seule opposition face à ces régimes honnis, la seule sachant capter le mécontentement populaire, devint celle des islamistes. En réalité, cette force politique était déjà à l'œuvre bien avant. Des courants fondamentalistes islamiques existaient depuis longtemps au Moyen-Orient et dans le monde musulman en général. Le courant le plus connu était l'Organisation des Frères musulmans. Née en Égypte en 1928, elle aspirait à instaurer un pouvoir religieux hostile aux idées modernes, à la laïcité et surtout au communisme. Un de ses chefs spirituels, Hassan al-Banna, affirmait, je le cite, « Il n'est pas d'organisation valable de société sans islam, sans tribunaux, sans école, sans gouvernement exécutif musulman, appliquant effectivement les injonctions de la loi de Dieu. Cette loi de Dieu, la charia, Les frères musulmans voulaient l'imposer à toute la société, notamment sur le plan des mœurs et en particulier pour les femmes. Dans la période qui suivit la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas vers ces religieux rétrogrades que se tournaient les masses pour contester l'ordre établi et la domination de l'impérialisme, mais plutôt vers les nationalistes comme Nasser. Les frères musulmans étaient cependant présents dans et autour des mosquées, actifs dans de nombreux aspects de la vie sociale, comme l'aide aux plus démunis. Leurs organisations s'étendirent dans tous les pays arabes, en Irak, en Syrie et en Palestine. En Égypte, ils furent soutenus par les représentants américains, désireux de contrebalancer l'influence de Nasser et des forces de gauche, en particulier des communistes. Un des chefs de la CIA au Moyen-Orient allait le révéler dans un livre intitulé « Le jeu des nations ». Les frères musulmans étaient aussi aidés par les monarchies du Golfe, en particulier l'Arabie saoudite. Depuis la fondation de ce pays, le régime est basé sur les courants religieux les plus réactionnaires, qui prêchent un islam ultra-traditionnaliste dit « wahhabite ». La monarchie saoudienne, énormément enrichie par le pétrole, accueillait volontiers les frères musulmans de Syrie ou d'Égypte, d'autant qu'elle était en rivalité avec ses États puissants à l'échelle régionale. Ces frères musulmans, installés en Arabie saoudite dans les années 50 et 60, allaient en retour fournir des cadres islamistes cultivés, en particulier des enseignants, à ce pays qui développait ses infrastructures à une vitesse prodigieuse. Ils contribuèrent à donner un côté très militant à l'islam des imams wahhabites, à propager l'intégrisme parmi les jeunes du pays, saoudiens d'origine ou fils d'immigrés. En Palestine, Israël présente aujourd'hui le Hamas comme son pire ennemi. Mais il a contribué à l'essor, il n'y a pas si longtemps, du courant islamiste. Après 1967, l'occupation par l'armée israélienne de Gaza, de la Cisjordanie et du Golan, les dirigeants israéliens virent bien l'intérêt qu'il y avait à favoriser les religieux au détriment des partis nationalistes, laïcs et de gauche, qui tenaient alors le haut du pavé à Gaza. Pour abattre ces derniers, tous les moyens étaient bons. Et c'est ainsi qu'un cheikh, un responsable religieux, représentant une association islamique, la Ferveur, prit contact avec eux. Il leur dit en substance « Nous avons le même ennemi. Je suis contre ces buveurs de whisky. Je veux me consacrer à la religion et au social. Laissez-moi faire. » Ce à quoi un responsable israélien répondait « Les ennemis de mes ennemis ne sont pas forcément mes amis, mais je les soutiens. » Ahmed Yassine, qui allait fonder le Hamas, eut ainsi les mains libres pour prendre le contrôle des mosquées, des centres sociaux, des cliniques, des jardins d'enfants. Il gagna en influence dans tous les territoires palestiniens, à Gaza comme en Cisjordanie, où il recruta de nombreux militants. Les Israéliens autorisèrent l'Arabie saoudite et les États-Unis à lui fournir des fonds. Grâce à l'apport financier saoudien, le nombre des mosquées dans les territoires palestiniens tripla, passa de 200 à 600. Les Israéliens laissèrent ainsi aussi se créer l'Université islamique de Gaza, seule institution universitaire de Gaza qui devint un vivier de militants islamistes. Dans les années 70, en Syrie, les islamistes profitèrent du discrédit du régime, d'autant plus facilement que celui-ci avait réussi à neutraliser le Parti communiste. Le régime d'Assad le domestiqua, en l'associant au pouvoir. Le Parti communiste se scinda en deux. Une fraction rejoignit le pouvoir en entrant au sein du Front national progressiste et l'autre entra en dissidence. Ces derniers furent pourchassés et emprisonnés. L'opposition fut de plus en plus incarnée par les frères musulmans syriens. Ces derniers visaient le pouvoir. Après 1976, une fraction d'entre eux déclencha des attaques terroristes contre la minorité alaouite dont était issu Assad. Ces attentats attisaient les divisions confessionnelles entre les musulmans chiites, dont faisaient partie les Alaouites et les musulmans sunnistes qui composaient la majorité de la population. Mais les patrons et les propriétaires terriens sunnites étaient épargnés par la critique des frères musulmans, alors même qu'ils devaient souvent leur fortune aux liens étroits qu'ils entretenaient avec le régime. Les frères musulmans soutinrent pendant plusieurs années une guérilla contre la police et l'armée gouvernementale, dont certains cadres les avaient secrètement rejoints. Les soulèvements qu'ils organisèrent en 1982 à Alep et Hama déclenchèrent une répression qui fit des milliers de morts parmi la population. Face au vide politique laissé par les nationalistes et les partis qui s'étaient revendiqués du communisme, les islamistes ne cessèrent de gagner du terrain dans tous les pays du Moyen-Orient. Deux événements jouèrent un rôle particulièrement important dans cet essor des mouvements islamistes. La révolte populaire en Iran et la guerre en Afghanistan. En 1978, une puissante révolte mit fin à la dictature du Shah d'Iran. Ce roi, dont la famille était au pouvoir depuis plus de 50 ans, était soutenu par les États-Unis. Ils équipaient une armée réputée très puissante qui permettait à l'Iran de jouer lui aussi, le rôle de gendarme de l'ordre impérialiste. Mais la révolte populaire balaya le gouvernement du Shah et finalement elle porta au pouvoir un religieux, l'ayatollah Khomeini, qui la veille encore se trouvait en exil en France. Ce fut un événement considérable qui stupéfia le monde. Il eut un écho dans tous les pays musulmans et donna une impulsion un peu partout aux partis islamistes. Par ailleurs, cette même année, en 1979, une autre crise éclata en Afghanistan. Le parti communiste au pouvoir y disposait du soutien de l'URSS, mais à l'intérieur, sa politique se heurtait à de nombreuses résistances. Dans les années qui suivirent, le président américain de l'époque, Jimmy Carter, saisit l'occasion et il demanda à la CIA de mettre au point ce qu'ils ont appelé le programme afghan. Cela consistait à soutenir une guérilla musulmane intégriste contre ce gouvernement allié à l'URSS. L'invasion du pays par l'armée russe, quelques mois plus tard, amena les Américains à renforcer ce qui devenait l'opération Cyclone. C'était un moyen d'affaiblir l'Union soviétique en l'enlisant dans le bourbier d'une guerre d'occupation. L'administration américaine et le roi saoudien s'entendirent pour approvisionner à parts égales un compte de la CIA en Suisse. Ce compte servit à payer des armes et l'entraînement d'instructeurs pakistanais, qui eux-mêmes encadraient et entraînaient des moudjahidines afghans. La monarchie saoudienne se posait en défenseur des musulmans et en même temps, elle réglait un problème politique. En effet, les jeunes saoudiens, à qui on présentait en permanence une pratique religieuse très stricte, comme devant diriger toute la vie, la société, la morale, dans les plus petits détails, constataient que le régime n'était lui-même guère fidèle à certains nombres de préceptes religieux. Cette contestation déboucha même sur une petite mais très violente rébellion religieuse en 1979. Le monument le plus sacré, la grande mosquée de la Mecque, fut prise d'assaut par plusieurs centaines de militants intégristes, regroupés autour de celui qu'ils croyaient être le Messie, le Mahdi. Le roi fit appel au GIGN français pour reprendre la mosquée et éliminer les terroristes. Mais cet attentat lui montrait qu'il devait se méfier d'une partie des religieux. L'Arabie saoudite interdit alors les activités sur son territoire des frères musulmans, qu'elle avait soutenues jusqu'alors. Mais de plus en plus riche, elle continua parallèlement à financer partout dans le monde les organisations islamiques les plus traditionnalistes et intégristes. Dans les années qui suivirent, le conflit en Afghanistan donna l'occasion d'éloigner du territoire saoudien des jeunes militants religieux potentiellement dangereux en les envoyant soutenir la rébellion antisoviétique. Ce fut la génération Ben Laden. Oussama Ben Laden était d'une famille saoudienne milliardaire, ayant bâti un empire dans le bâtiment, la construction de mosquées en particulier, grâce à ses liens avec la famille royale. Comme bien d'autres familles saoudiennes, elle a des origines diverses. Son père venait du Yémen, sa mère de Syrie. Ben Laden a commencé à 16 ans à fréquenter les intégristes musulmans. Il se passionnait pour le combat des islamistes au Yémen. À partir de 1979, à l'âge de 22 ans, il partit au Pakistan, dans une région proche de la frontière afghane, au service du prince Turki, chef des services secrets saoudiens. En Afghanistan, Ben Laden et les autres cadres djihadistes étrangers ont en réalité très peu combattu l'URSS, contrairement à la légende qu'ils ont voulu créer. Ils ont assuré la logistique, ils ont collecté des fonds venant de riches saoudiens, puis ils ont formé une troupe de plusieurs milliers de militants religieux venus de divers pays pour mener le djihad et vivant dans des camps d'entraînement au Pakistan. Ce sont eux qui ont répandu l'intégrisme wahhabite parmi les Pakistanais qui y vivaient et parmi les combattants afghans qui s'y réfugiaient. Ils ont tissé des liens, y compris avec certains qui allaient appartenir par la suite aux talibans. Les États-Unis, qui étaient derrière toute cette opération, ont donc largement contribué à transformer l'Afghanistan en matrice et terrain de combat pour les djihadistes du monde entier. Les troupes soviétiques, embourbées face à un peuple dont elles se faisaient haïr, durent rentrer chez elles. Un certain nombre de djihadistes étrangers rentrèrent chez eux également. D'autres renforcèrent la guérilla islamiste contre le pouvoir communiste en place à Kaboul. Nous verrons comment ces djihadistes allaient se retourner plus tard contre leurs commanditaires. Après la chute du Shah d'Iran et l'arrivée de l'Ayatollah Khomeini au pouvoir, les États-Unis se voyaient privés d'un allié important pour la préservation de leur ordre au Moyen-Orient et devaient faire face à un régime qui les défiait. Un élément de réponse vint de Saddam Hussein, le dirigeant du pays voisin, l'Irak. Comme Assad en Syrie, Saddam Hussein avait gravi les échelons au sein du parti nationaliste, le parti Baas, avant de se retrouver à la tête de l'État. Par les relations qu'il entretenait avec l'URSS, par ses prises de position, Saddam Hussein n'avait pas les faveurs des États-Unis. Mais ses relations étaient plutôt bonnes avec d'autres puissances impérialistes, en particulier la France. En 1974, Chirac, alors Premier ministre, avait déclaré après un voyage en Irak que Saddam Hussein était un ami personnel. Il faut dire que des gros contrats de vente d'armement contribuaient à sceller cette amitié. En 1980, en déclenchant la guerre contre l'Iran de Khomeini, Saddam Hussein signifia qu'il était disposé à prendre la place de puissance régionale laissée libre par l'Iran. Les puissances impérialistes étaient gagnantes sur tous les tableaux. Jouer l'Irak contre l'Iran permettait d'affaiblir deux régimes régionaux qui leur posaient problème. Pour les marchands d'armes du monde entier, ce fut aussi une très bonne affaire. Plus la guerre durait, plus ils s'enrichissaient. Et ils firent en sorte que les camps s'équilibrent pour la faire durer. Ils ont ainsi vendu pour plus de 100 milliards de dollars d'armes. Même les marchands d'armes de pays ennemis de l'Irak, comme les États-Unis et Israël, en profitèrent. La guerre dura plus de 8 ans. La population des deux pays en paya le prix fort, avec plus d'un million de morts et des destructions innombrables. En 1988, à la fin de cette guerre, l'Irak était littéralement étranglé économiquement, avec des pertes financières estimées à 450 milliards de dollars. Saddam Hussein espérait bien que les monarchies pétrolières et les pays impérialistes qui l'avaient encouragé à faire la guerre à l'Iran lui viendraient en aide pour les récompenser du service rendu. Mais il fut éconduit dans toutes les capitales arabes qu'il visita. Acculé, il décida durant l'été 1990 d'envahir le Koweït pour se rembourser de ses frais. Le rattachement du Koweït des bouchées naturelles de l'Irak sur la mer était une vieille revendication. En 1961, déjà, Le général qui dirigeait l'Irak à l'époque avait tenté de récupérer ce territoire. Mais il n'était pas question pour les dirigeants américains qu'on touche aux intérêts de leur compagnie pétrolière. Pas question non plus de laisser passer l'idée qu'un dirigeant d'une ex-colonie pouvait modifier à sa guise les frontières établies sous l'égide de l'impérialisme. Les puissances impérialistes s'étaient servies de l'Irak, mais si lui voulait se servir en retour, elles étaient prêtes à lui donner une leçon. Ce fut le début de l'opération « Tempête du désert ». Un bourrage de crânes s'abattit sur la planète entière. Saddam Hussein, ami de la France, allié que les puissances impérialistes avaient encouragé contre l'Iran, était, tout comme Nasser en 1956, qualifié de « nouvel Hitler ». Après cette campagne d'opinion hystérique, les États-Unis, à la tête d'une coalition réunissant pas moins de 50 États, dont la France, déclenchèrent la première guerre du Golfe. Avec la caution de l'ONU, car il s'agissait de défendre le fameux droit international, le droit du petit Koweït face au méchant Irak, 700 000 soldats de la coalition furent sur le pied de guerre. Pendant près de 6 semaines, à partir de janvier 1991, un déluge de feu s'abattit sur le pays. Pour cautionner leur sale guerre, les spécialistes en communication utilisaient un nouveau lexique. On ne parlait plus de bombardements ni de morts civiles, mais de frappes chirurgicales et de dégâts collatéraux. Pourtant, c'était une vraie guerre, avec ses morts et ses destructions. La plupart des infrastructures furent dévastées, en particulier les réseaux très importants et complexes d'adduction d'eau et les réseaux électriques. Sans difficulté, les troupes irakiennes furent chassées du Koweït. Pour faciliter leur entrée en Irak, les dirigeants américains encouragèrent les populations à se soulever contre Saddam Hussein, en leur disant « Allez-y, on vous protégera comme on a protégé le Koweït ». Aussi, à leur approche, les populations kurdes au nord et chiites au sud s'insurgèrent. Mais les troupes de la coalition s'arrêtèrent avant Bagdad, laissant Saddam Hussein au pouvoir. Les puissances impérialistes étaient intervenues en invoquant la nécessité de débarrasser l'humanité du soi-disant nouvel Hitler, Saddam Hussein, mais une fois celui-ci vaincu, abattre le régime aurait comporté un risque, celui de voir se développer une situation d'anarchie ou même une situation révolutionnaire. Les dirigeants américains préférèrent donc abandonner les populations insurgées à elles-mêmes et laisser aux dictateurs les forces suffisantes pour écraser la révolte. Ce n'est qu'après avoir laissé Saddam Hussein écraser l'insurrection kurde que la coalition mit en place une zone de protection aérienne au nord de l'Irak. Elle laissa alors les milices kurdes des deux clans rivaux, Barzani et Talabani, installer leur pouvoir dans cette région. Le Kurdistan irakien, épargné par les sanctions économiques infligées au reste du pays, allait connaître un tout autre sort. Les dirigeants impérialistes y voyaient là leur intérêt, et les importants gisements de pétrole de la région kurde n'y étaient pas évidemment étrangers. En revanche, le reste du peuple irakien n'avait pas fini d'être puni. Durant les 10 années qui suivirent, l'Irak fut soumis à un embargo occidental inouï. Sous prétexte de l'empêcher de fabriquer des armes, il ne pouvait importer le matériel, les pièces détachées, les produits chimiques nécessaires au redémarrage de son économie. Les sanctions économiques, ajoutées à l'ampleur de destruction de 1991, auraient causé la mort d'un million de personnes, dont la moitié d'enfants. C'est dans ce contexte qu'eurent lieu les attentats du 11 septembre 2001, revendiqués par Ben Laden, chef du groupe Al-Qaïda. C'était en 1987, en Afghanistan, que Ben Laden avait décidé de fonder Al-Qaïda, organisation de combat à vocation religieuse, qui avait pour but le djihad global, c'est-à-dire la guerre sainte au niveau du monde entier. Al-Qaïda est encore plus réactionnaire que les frères musulmans, n'acceptant aucune opposition, ne voulant qu'opposer avec aucune minorité. Tous ceux qui ne sont pas dans la ligne sont considérés comme apostats, impies, mécréants et donc bons à anéantir. Ses partisans insistaient sur la nécessité du combat armé, fût-il limité à des attentats commis par des petits groupes de terroristes, et sur l'objectif d'imposer un État islamique global, le califat. Le nom de l'organisation viendrait de la manière dont les membres appelaient leur premier camp de base d'entraînement « la base ». Mais certains ont cru que cela venait de la base de données informatique constituée par Ben Laden pour garder le contact avec les volontaires qu'ils avaient accueillis et organisés. En tout cas, il s'agissait d'utiliser le milieu de djihadistes constitués en Afghanistan pour former un mouvement durable à partir duquel ils puissent continuer le combat après le retrait des troupes soviétiques. L'Afghanistan continua d'être un terrain de combat pour les djihadistes qui affluèrent pour participer à la guerre civile afghane. Cette guerre a eu lieu en particulier de 1989 à 1996. Et en réalité, elle n'a vraiment jamais cessé. Et cette guerre civile eut lieu avec le soutien masqué de la CIA et celui plus ouvert des services secrets pakistanais. Les djihadistes étrangers s'y illustrèrent par leur atrocité. En 1989, après le départ des Soviétiques, Ben Laden rentra en Arabie Saoudite, jouissant d'un certain prestige et gonflé de son expérience afghane. Il proposa au roi d'Arabie de former des brigades pour combattre l'Irak de Saddam Hussein. Il critiqua le fait que son gouvernement lui préfère l'armée américaine et que la terre sainte de l'Arabie soit souillée par des infidèles étrangers. C'est ainsi qu'il qualifiait les soldats américains toujours plus nombreux. La monarchie des Séouds l'exclut alors du pays, le priva de sa nationalité. Ben Laden trouva refuge au Soudan, dirigé par les islamistes. Puis, en 1996, il regagna l'Afghanistan, où les talibans venaient de reprendre le pouvoir. Leur victoire venait d'ailleurs à ce moment-là d'être saluée par le département d'État américain. Ce régime abject et moyenâgeux convenait parfaitement à Ben Laden et lui offrait des véhicules à plaque officielle et un libre accès à la compagnie d'aviation. En 1998, Ben Laden décida de s'en prendre directement aux intérêts américains partout dans le monde et, si possible, aux États-Unis même. Al-Qaïda fut à l'origine d'une série d'attentats. En 1998, elle s'attaqua aux ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie. En 2000, des bateaux de guerre américains au Yémen furent visés et 17 marins furent tués. Mais bien sûr, l'opération majeure, préparée depuis des années, fut celle des détournements d'avions utilisés comme des bombes le 11 septembre 2001. L'écroulement des deux grandes tours jumelles, symboliques de New York et de la puissance économique occidentale, filmée et retransmise en direct sur toutes les chaînes de télévision du monde, fut une réussite marquante pour Ben Laden. Cela fit de lui et de son mouvement à la fois des monstres aux yeux d'une grande partie du monde et des vedettes aux yeux de ceux qui y voyaient surtout une claque à la domination américaine, en particulier dans les pays musulmans. Cela lui permit de s'imposer comme le chef incontesté de toute la mouvance djihadiste internationale. Ses inspecteurs distribuaient le label Al-Qaïda à tous les groupes qui lui prêtaient allégeance. Les groupes barbares sur lesquels les États-Unis s'étaient appuyés se retournaient contre eux. 3 semaines après les attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis ripostèrent, intervenant en Afghanistan pour défaire le régime des talibans accusés d'abriter Oussama Ben Laden. Les talibans, qui exerçaient une dictature sanglante depuis 5 ans, n'étaient plus soutenus par personne et furent rapidement défaits. Mais ensuite, les États-Unis allaient à leur tour s'embourber en Afghanistan, plongeant le pays dans un chaos qui allait en faire la proie de chefs de guerre. Seulement, dès ce moment, la vraie cible des Américains n'était pas les talibans. Utilisant à nouveau la vieille ficelle de l'émotion après les attentats du 11 septembre, le président américain Bush, le fils, allait se lancer dans une nouvelle guerre, cette fois pour mettre à bas Saddam Hussein et le régime irakien, qui n'avait pourtant rien à voir avec l'attentat des tours jumelles. Une nouvelle campagne d'opinion délirante se déchaîna contre l'Irak. Saddam Hussein fut accusé sans preuve et pour cause de lien avec la mouvance Al-Qaïda et d'abriter des armes de destruction massive. Saddam Hussein eut beau accepter toutes les inspections de l'ONU qui ne trouvèrent pas la moindre trace de ses armes, ce fut quand même le prétexte au déclenchement de la guerre. Sur la base de ce mensonge, le peuple irakien subit une nouvelle fois le terrorisme massif de l'État le plus puissant de la planète, épaulé par 48 autres. Un mois après le début de l'offensive américaine, en avril 2003, le régime de Saddam Hussein était renversé. Un mois plus tard, le président américain proclama la fin des opérations en Irak. Mais il était plus facile d'abattre le régime de Saddam Hussein que de le remplacer. Les États-Unis s'attaquèrent aux deux piliers du régime, le parti Baas et l'armée. L'administrateur américain de l'Irak promulgua des décrets qui allaient engendrer un chaos dont le pays est toujours victime. À l'image de la dénazification mise en place en Allemagne au sortir de la Seconde Guerre... Je recommence. Bon. Donc je disais, à l'image de la dénazification mise en place en Allemagne au sortir de la Seconde Guerre mondiale, une débasification, par rapport aux parties basses, du pays fut organisée. Tous les Irakiens ayant travaillé au sein des ministères ou dans des établissements publics firent l'objet d'arrestations et furent soumis à des interrogatoires musclés. En l'espace de quelques semaines, 200 000 fonctionnaires furent mis au chômage. Le choc de l'invasion américaine s'avéra dévastateur, autant du fait du déluge de bombes et de missiles largués par l'aviation américaine que du fait du pillage généralisé dont furent victimes les services publics. Administrations, écoles, universités, archives, bibliothèques, banques, hôpitaux, musées, entreprises furent systématiquement dépouillés, vidés, saccagés. Dans les hôpitaux, des centaines de médecins, des personnels qualifiés furent démis de leur poste du jour au lendemain. 30 000 enseignants à qui on reprochait d'être les vecteurs de la propagande du parti Baas furent renvoyés. L'industrie pétrolière, vitale pour le pays, ne fut pas épargnée. 17 des 24 directeurs généraux de la compagnie nationale irakienne furent chassés, ainsi que plusieurs centaines d'ingénieurs, ceux-là même qui avaient maintenu la production pétrolière malgré les difficultés depuis 25 ans. L'économie irakienne, déjà exsangue, après plus d'une décennie de sanctions, était paralysée. La situation était aggravée par un brusque chômage de masse. L'autre mesure dévastatrice concerna le démantèlement de l'ensemble des forces armées, l'armée irakienne elle-même, les services de sécurité et la garde républicaine. Cela créa un climat d'insécurité généralisé. 400 000 soldats se retrouvaient au chômage forcé, sans retraite, ni espoir de réinsertion. Les familles qui dépendaient de cette solde se retrouvaient sans revenus. Au bout du compte, des milliers d'hommes armés, formés au combat, se retrouvèrent à la rue, sans salaire et sans perspective. Beaucoup rejoignirent leur province d'origine et une partie importante ne tarda pas à rallier le soulèvement armé que l'occupation américaine engendra. Cette entreprise de démantèlement de l'administration, de l'ensemble des forces armées, était folle, complètement folle, même du point de vue de l'impérialisme américain. C'était une fuite en avant qui ne pouvait que conduire au chaos. Ce qui aggrava encore la situation fut la décision américaine, durant l'été 2003, de mettre en place un pouvoir ayant pour fondement les différences ethniques et confessionnelles entre arabes, chiites, arabes, sunnites, et kurdes. Ce calcul était fondé sur les statistiques. La population irakienne était composée de 60% de chiites, 20% de sunnites et 20% de kurdes. Ce nouveau pouvoir, soi-disant novateur, était composé d'exilés et s'appuyait sur les forces religieuses chiites, les forces réactionnaires. Des organisations islamistes comme le parti Dawa, soutenu par l'Iran, classé auparavant comme organisation terroriste, devenait fréquentable et était aimablement invité à coopérer pour mettre en place un nouveau pouvoir démocratique. Sur les 25 membres du gouvernement, on trouvait presque toutes les ethnies et confessions, et même un membre du Parti communiste et un membre de la communauté yézidi. Mais 5 seulement étaient sunnites. Cette division communautaire du pouvoir marginalisait les populations sunnites qui, dans leur ensemble, étaient assimilées au Parti Basse. Or, le Parti Basse n'était pas un parti confessionnel et ne comptait pas seulement des sunnites, mais aussi de nombreux chiites. En traitant les sunnites comme s'ils étaient tous des partisans de Saddam Hussein, tous bassistes, l'État américain les regroupait contre lui et les marginalisait, alors que la majorité d'entre eux avaient souffert de la dictature de Saddam Hussein et que certains l'avaient combattu à un moment ou à un autre. Le nouveau pouvoir irakien s'appuyait sur les forces politiques chiites, censées lui être acquises après les persécutions subies à l'époque de Saddam Hussein. Commencée en 2003, l'occupation américaine en Irak a duré presque une décennie. Les dirigeants américains prétendaient qu'ils seraient accueillis en libérateurs et qu'il leur faudrait 6 mois pour stabiliser l'Irak et 1 an pour le reconstruire. Ils avaient, paraît-il, en tête de se retirer rapidement. Mais voilà, les choses ne se passèrent pas comme ils avaient prévu. Ils se retrouvèrent confrontés à une insurrection, une guérilla, qui allait les tenir en échec. En 2004, pour tenter de briser la résistance à l'occupation, les Américains assiégèrent et attaquèrent à 2 reprises de manière massive la ville de Fallujah. Il y eut des milliers de morts. La guérilla était hétéroclite et regroupait des bandes armées, des milices plus ou moins liées entre elles. On pouvait reconnaître plusieurs mouvances, dont les objectifs affichés étaient très variés. La composante la plus importante était celle qui rassemblait les militaires de l'ex-armée irakienne et les agents du Parti Basse. Elle était armée, habituée au combat, et ses soldats aspiraient à retrouver leur place dans un pays libéré. Une autre guérilla regroupa des tribus sunnites qui refusaient les institutions mises en place par les États-Unis sous couvert de l'ONU. D'autre part, la mouvance djihadiste fit de plus en plus parler d'elle par la violence de ses attaques et la terreur qu'elle faisait régner. Parmi elles, ce fut de plus en plus l'organisation Al-Qaïda en Irak qui s'imposa. En 2003, quand les Américains avaient envahi l'Irak, Al-Qaïda n'y était pas présente. Seul un petit groupe de djihadistes kurdes existait au Kurdistan irakien. La plupart de ses membres étaient des anciens de l'Afghanistan. En 2002, après la chute des talibans, ils étaient revenus dans la région accompagnés de plusieurs centaines de combattants de toutes nationalités, s'installant dans les montagnes du Kurdistan, à cheval à la frontière avec l'Iran, terrorisant les minorités religieuses jugées impies. Ils furent délogés par les forces spéciales américaines et d'autres combattants kurdes. Du coup, ils s'éparpillèrent dans tout le pays et en particulier en territoire sunnite. Al-Qaïda n'était pas la seule organisation djihadiste. D'autres groupes lui faisaient concurrence, comme le djihad irakien ou l'armée islamique en Irak. De plus, l'Irak, sous occupation américaine, n'allait cesser d'accueillir les djihadistes du monde entier, pourchassés par leur régime, tels que des Algériens, des Saoudiens, des Égyptiens. Leur organisation trouvait des financements du côté des monarchies pétrolières et par la contrebande. Côté chiite, 2 milices importantes encadraient la population. D'une part, il y avait l'armée du Mahdi, conduite par Moqtada al-Sadr. Cette milice de plusieurs dizaines de milliers d'hommes faisait sa loi dans la banlieue populaire de Bagdad, appelée Sadr City, où vivaient un million de chiites pauvres. D'autre part, on trouvait des milices liées au parti Dawa. Ces milices chiites bénéficiaient du soutien de l'Iran en moyens financiers et matériels et étaient aidées également par des agents iraniens. À côté de ces milices politico-religieuses, des groupes criminels armés profitaient aussi de la disparition des forces de police. Les uns et les autres racketaient les populations au nom de la défense de leur communauté, procédaient à des enlèvements afin de toucher des rançons. Le vide étatique créé par les États-Unis fut vite comblé par des groupes armés. Un dictateur avait été déchu et des dizaines de petits dictateurs en herbe surgissaient. En 2005, la nouvelle constitution soutenue par les forces d'occupation ne fit qu'attiser les conflits confessionnels. Sous couvert de fédéralisme, elle sanctionnait la division confessionnelle du pays entre un sud chiite, un centre sunnite et le nord kurde. Le Kurdistan irakien, devenu quasiment autonome depuis 1992, comme on l'a vu, connaissait un sort bien meilleur. La région avait prospéré et tranché avec le reste du pays. Les partis kurdes défendaient la nouvelle constitution qui institutionnalisait leur autonomie. Sous la protection américaine, le gouvernement d'Erbil, la capitale kurde, signait directement les contrats avec les grandes compagnies internationales. Il avait le soutien de sa population. Grâce aux ressources pétrolières, il avait transformé les milices kurdes en une armée moderne assez bien équipée. Et l'élection du Kurde Talabani comme premier président de la République d'Irak reflétait leur nouveau rôle politique. Mais la Turquie voisine, confrontée à une communauté kurde importante, voyait cette autonomie d'un très mauvais œil. Les partis chiites furent les autres grands gagnants de la nouvelle constitution. La majorité démographique leur donnait obligatoirement la majorité politique. Le gouvernement central de Bagdad avait reconstitué une armée qui s'appuyait largement sur les milices chiites. Les institutions, de fait, étaient contrôlées par une coalition kurdo-chiite. La question du contrôle des ressources pétrolières accrut les divisions au sein de la population irakienne. Les grands gisements de pétrole étaient localisés au nord dans la zone contrôlée par les Kurdes et au sud dans la zone contrôlée par les chiites. Avec l'État fédéral ainsi conçu, les occupants américains avaient potentiellement divisé l'industrie pétrolière en deux. La population sunnite, privée, elle, de nappes pétrolifères, avait le sentiment d'être la laissée pour compte de ce régime. L'occupation par les puissances impérialistes avait créé une situation explosive. Elle portait en germe un affrontement entre communautés qui n'allait pas tarder à être exploité entre les différents camps. Mais je vous propose de faire la pause.
Bien, camarades, comme il a été dit, nous allons maintenant faire une pause et nous reprendrons notre exposé dans un quart d'heure à 21h45.